Le journal de Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, les retraités vont-ils réussir à faire trembler l'Élysée ? Manifestation aujourd'hui dans la rue et dans les maisons de retraite pour se plaindre d'une perte de pouvoir d'achat et pour demander davantage de personnel dans les EHPAD. L'Élysée assume sa politique mais son entourage s'interroge. Autre conflit social en perspective, la grève à la SNCF qui doit se décider ce soir. À 8h20, Ali, vous recevez la ministre des Transports.
Elisabeth Borne qui sera l'invitée du grand entretien de la matinale entre 8h20 et 8h40. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Au menu également dans ce journal, la fin des magasins de jouets Toys R Us, plombés par une dette abyssale, des milliers d'emplois potentiellement menacés en France. Dans l'affaire Skripal, après les sanctions prises contre Moscou, Londres ressort des cartons de vieilles affaires de morts suspectes, peut-être trop rapidement abandonnées. Une nouvelle journée d'audience pesante au procès du tueur de Perpignan, témoignage aujourd'hui d'une femme ayant échappé au couteau de Jacques Rançon. Et puis en fin de journal, une nouvelle application pour les adolescents afin de lutter contre les fausses nouvelles, les fake news. C'est la colère que le pouvoir n'avait pas vu venir, la colère du troisième âge. Pour la deuxième fois depuis le début du quinquennat, les retraités et ceux qui s'en occupent se mobilisent. Aujourd'hui, mouvement de grève des personnels des EHPAD pour réclamer plus d'effectifs et défilé de têtes blanches dans les rues de la France entière pour dénoncer la hausse de la CSG. La perte de pouvoir d'achat, en effet, c'est ce qui inquiète les retraités. Pas un déplacement du président de la République sans être pris à partie sur cette question. Dernier échange en date, c'était hier à Tours.
Là, vous nous avez vraiment pompés.
Non, c'est pas vrai, mais je vais vous expliquer.
Oh, bah, les retraités, dites donc, on a travaillé toute notre vie.
Mais vous avez travaillé toute votre vie, pourquoi ?
Ben, pour avoir une retraite, hein.
Non, si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. Vous, votre retraite, c'est les jeunes qui vont la financer, c'est les actifs actuels. Vous, vous êtes parti à la retraite à peu près au même âge que vos parents, mais avec une espérance de vie de 10-15 ans de plus. C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Et donc, moi, je suis obligé aussi de faire ce travail-là, de remettre en marche l'économie du pays. Et donc, la CSG, on ne l'a pas fait pour pomper, comme vous dites. Non, on a baissé de 3 points toutes les cotisations salariales. Donc, tous ceux qui travaillent touchent plus pour qu'ils gagnent plus par le travail, que ça redémarre plus vite, pour qu'ils puissent vous payer les retraites. Voilà.
Ça fait jamais... on n'est pas content.
Ça fait jamais plaisir, mais je l'assume.
Emmanuel Macron, donc, qui répondait hier à des retraités tourangeaux au micro de Sarah Lemoine. Bonjour Cyril Gradiani.
Bonjour.
On vient de l'entendre, hein, l'Élysée assume sa politique, mais en coulisses, dans son entourage, en tout cas Cyril, la gronde des têtes blanches commence à inquiéter.
Et la crainte à l'Élysée, c'est que tous les déplacements présidentiels prennent cet accent-là. Un président obligé de se justifier, de convaincre. Alors certes, Emmanuel Macron aime l'adversité et aller au contact, mais dans son entourage, on s'interroge, notamment de savoir pourquoi Bercy ne communique pas en direction de ceux qui seront exonérés en fin d'année de taxes d'habitation. Aujourd'hui, en France, personne ne sait véritablement ce qu'il devra régler ou pas en octobre. Quoi qu'il en soit, cette hausse de la CSG, ils vont la payer, explique un familier du pouvoir qui se remémore le précédent Hollande et les hausses d'impôts qu'il avait traînées tout au long de son quinquennat. Le même s'étonne d'ailleurs qu'Édouard Philippe, qui a forcément croisé, dit-il, des petits retraités sur les marchés au Havre, n'ait pas alerté le chef de l'État. Pour la droite, c'est une aubaine. Dans certains départements, des bus ont même été mis à disposition pour aider les retraités à grossir le cortège parisien aujourd'hui. Au final, le risque pour le président, c'est de remobiliser l'électorat de la droite classique, de la remettre pleinement dans le jeu, constate un ministre. D'autres le pressent de redistribuer au plus vite une partie de la cagnotte acquise grâce à la hausse de la croissance pour calmer cette grogne sociale.
Grâce Cyril Gradiani du service politique de France Inter. Merci. Un autre mouvement social, celui des cheminots. Réunion très attendue ce soir de l'intersyndicale après le projet de loi par ordonnance du gouvernement présenté hier. Les syndicats se disent prêts au bras de fer. À Mayotte, le gouvernement a finalement échoué à mettre fin au conflit. L'accord signé avec Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, n'a finalement pas été validé par la base. Les barrages routiers et la grève générale se poursuivent.
C'est une enseigne mondialement connue, Toys R Us, met la clé sous la porte.
La petite boutique de puériculture créée en 1948 à Washington en plein baby-boom était devenu un véritable empire du jouet. Toys R Us annonce donc la fermeture de tous ses magasins aux États-Unis, plombés par une dette de plusieurs milliards de dollars, plus de 30 000 emplois menacés. La décision du groupe pourrait aussi concerner des magasins en France. À Washington, les précisions de Grégory Phillips.
C'est au siège de Toys R Us, dans le New Jersey, que David Brandon, le directeur général, a dévoilé hier ce plan qui prévoit la vente ou la fermeture de tous les magasins, 800 situés sur le territoire américain. 33 000 emplois sont menacés ici aux États-Unis. Selon le Wall Street Journal, Brandon a également annoncé à ses équipes la liquidation des activités du groupe en Espagne, en Pologne, au Royaume-Uni et en France. Le quotidien ne donne pas plus de détails sur le sort des 50 magasins et des 1500 salariés qui travaillent en France pour Toys R Us. Cela fait plusieurs années que le groupe traversait d'énormes difficultés face à la concurrence de la grande distribution et d'Amazon. Avec une dette estimée à 5 milliards de dollars, Toys R Us avait dû en 2015 revendre deux de ses magasins les plus emblématiques, F.A.O. Schwartz à New York sur la 5e avenue et celui de Times Square. En septembre dernier, le groupe s'était officiellement placé sous la protection de la loi sur les faillites, 70 ans après sa création. Aux États-Unis, Grégory Phillips, France Inter.
Et puis dans un communiqué officiel ce matin, Toys R Us se veut moins catégorique. La compagnie n'a pas annoncé vendre les 50 magasins français, mais l'option, dit le communiqué, est envisagée. Un comité d'entreprise est prévu ce matin au siège français de l'enseigne. La guerre diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Russie va-t-elle s'étendre à l'Europe entière? Londres a fait le choix hier de sanctions essentiellement symboliques et diplomatiques. Expulsion de 23 diplomates russes, suspension des relations bilatérales, pas de représentants britanniques à la Coupe du Monde de foot en Russie. En face, l'administration russe, elle temporise. Provocation grossière, dit-on à Moscou. La riposte ne se fera pas attendre, promet-on, mais pour le moment, toujours rien. Poutine, Vladimir Poutine, cherche sans doute à voir comment les Européens vont soutenir leurs partenaires britanniques. Après un petit flottement, Paris a fini hier par se déclarer solidaire de Londres. Écoutez Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.
La France est solidaire du Royaume-Uni dans ces circonstances qui sont des circonstances d'une extrême gravité. L'attaque a été exécutée chez notre allié avec un agent neurotoxique de qualité militaire, développé en secret par la Russie soviétique dans les années 70. Nous avons pleine confiance dans les investigations que conduisent nos partenaires britanniques. Dans les heures qui viennent, la France sera au plus haut niveau en contact avec les autorités britanniques pour coordonner notre réponse.
Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. En marge de cette bataille diplomatique, la Grande-Bretagne s'interroge sur d'autres cas possibles de morts suspectes, des cold cases, comme on dit, remontant jusqu'à 2006. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial à Londres, Philippe Randé. Philippe Randé, la dernière affaire qui interroge les enquêteurs, Philippe, remonte à cette semaine.
Oui, Nikolaï Glouchkov, 68 ans, retrouvé mort dans sa maison lundi soir, ici au sud-ouest de Londres, où il vivait seul. La police anglaise ne fait pour l'instant pas de lien avec l'empoisonnement de Sergueï Skripal, mais certains des proches de Glouchkov parlent de traces de strangulation. Nikolaï Glouchkov, ancien dirigeant de la compagnie aérienne russe Aeroflot, était surtout un très très proche de l'opposant au Kremlin, Boris Berezovsky. Boris Berezovsky, ex-oligarque russe, qui avait été retrouvé pendu dans sa salle de bain près de Londres en mars 2013. La police britannique avait conclu un suicide, ce qu'a d'ailleurs toujours refusé d'admettre Nikolaï Glouchkov. Glouchkov, Berezovsky, en plein cœur du bras de fer entre Moscou et Londres, la ministre de l'Intérieur britannique a donc expliqué dans un entretien à l'Evening Standard que la police et le renseignement intérieur allaient s'associer pour travailler, pour vérifier 14 affaires de morts suspectes d'opposants au Kremlin depuis 2006. C'est le cas de cet autre proche de Boris Berezovsky, un certain Johnny Elishaov, ancien investisseur dans le secteur du pétrole, qui est mort en tombant du toit d'un parking en 2014, de ces deux magnats de l'immobilier écrasés sous des rames de métro, toujours en 2014. Selon une enquête de BuzzFeed, sur 14 décès classés sans suite, 9 concernent Berezovsky et son entourage.
Philippe Randé, en direct de Londres avec les techniques d'Éric Audra. Direction Moscou maintenant, à 3 jours de l'élection présidentielle. Une élection jouée d'avance, on le sait, la seule vraie question c'est la participation. Le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, ne pourra pas se présenter, mais il espère bien peser quand même à la marge sur ce scrutin. Il appelle ses partisans au boycott et entend envoyer des observateurs traquer les fraudes dans les bureaux de vote. Reportage avec des membres du comité de soutien Navalny à Nijni Novgorod, Bertrand Galichet.
Au rez-de-chaussée d'un immeuble HLM, le modeste bureau du comité de soutien à Navalny est protégé par une porte en fer. À l'intérieur, Anna Petkoglu, 33 ans, à l'ENER Solide. En septembre dernier, cette responsable locale a maintenu un rassemblement d'opposants après l'interpellation à Moscou d'Alexei Navalny.
Les gens sont venus dans la rue et la police les attendait déjà. Certains militants ont été arrêtés. Avec les membres du comité, nous étions bloqués au bureau. Devant la porte, il y avait une camionnette de police. Et ils attendaient qu'on sorte pour nous arrêter.
Des pressions policières dont Dimitri, un jeune militant, a déjà fait l'expérience il y a quelques semaines.
Je marchais dans la rue en distribuant des tracts pour Navalny. Des policiers se sont approchés de moi, ils ont téléphoné à quelqu'un et m'ont dit de les suivre.
Cette fois-là, ce n'était qu'une intimidation, mais l'administration russe fait souvent du zèle contre les opposants. D'ici dimanche, le comité Navalny espère trouver des observateurs pour chacun des 527 bureaux de vote de la ville. Faute de pouvoir soutenir leur candidat privé d'élection, les partisans d'Alexei Navalny surveilleront le scrutin sans grande illusion. Nijni Novgorod, Pierre Quintard, Bertrand Galichet, France Inter.
8h11 sur France Inter, on revient en France avec le début de la bataille judiciaire autour de l'héritage Hallyday.
Premier round aujourd'hui, très attendu, David Hallyday et Laura Smet qui s'estiment déshérités par le testament de leur père demandent au tribunal de Nanterre de geler le patrimoine de Johnny et d'avoir un droit de regard sur son album posthume, une procédure d'urgence dite en référé, la justice à 48 heures pour trancher. À Perpignan, l'atmosphère à la cour d'assises qui juge Jacques Ranson est chaque jour plus irrespirable. Hier, les deux frères d'une victime se sont jetés sur le box de l'accusé en tentant de le prendre au cou. Aujourd'hui, nouvelle épreuve en perspective, c'est une rescapée qui va venir témoigner. Une jeune femme qui a échappé de peu à une tentative de meurtre il y a 20 ans. Corinne Audouin.
Sur le banc des parties civiles, Sabrina est là, très souvent. La jeune femme, qui porte parfois un mouchoir à ses yeux, dégage une grande force. Aujourd'hui, elle va affronter celui qui a failli la tuer, le 9 mars 98. C'était 3 mois après le meurtre de Mokhtaria Chaïb, son avocat, Étienne Nicolo.
Sabrina attendait son copain en bas de l'immeuble où elle habite. Il faisait nuit et elle a vu arriver un homme qui titubait et qui lui a demandé du secours. Elle a vite compris que cet homme ne voulait pas simplement une aide, mais voulait l'agresser. Il a tenté de la tuer, en lui disant d'ailleurs « je vais te tuer ». Il lui a planté le couteau dans le bas-ventre, remontant jusqu'à l'estomac. Elle a failli mourir, elle veut le voir en face, elle veut lui dire ce qu'elle a vécu. Elle m'a toujours dit qu'il avait un sourire carnassier, qu'il était dans un état impensable, qu'il lui a laissé penser qu'elle allait mourir.
Une voisine, alertée par les cris de la jeune femme, avait mis l'agresseur en fuite. Ce n'est qu'en 2014, 16 ans plus tard, que Sabrina le reconnaît en photo dans le journal. Jacques Ranson venait d'être arrêté pour le meurtre de Mokhtaria Chaïb. Il a depuis reconnu avoir agressé Sabrina. Perpignan, Corinne Audouin, France Inter.
Les militants socialistes appelés à choisir leur nouveau premier secrétaire. Ce soir, premier tour à partir de 17h jusqu'à 20h. On connaît les 4 candidats en lice. Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas et Emmanuel Morel. Résultat des définitif. Demain matin, deuxième tour le 29 mars. Un vent de critique souffle sur la chaîne parlementaire. C'est le journaliste documentariste Bertrand Delay qui a été choisi hier pour prendre la tête de LCP. Bertrand Delay accusé par la gauche d'être trop proche d'Emmanuel Macron. Alors vrai ou faux, les précisions d'Élodie Forêt.
Un journaliste peut réaliser un documentaire sur un politique sans lui être acquis. C'était la défense hier des députés de la majorité, membres du bureau de l'Assemblée. Sauf que dans le cas de Bertrand Delay, il suffit d'aller voir son blog, souffle une élue Les Républicains, pour constater qu'ici, c'est à un militant que nous avons affaire. Sur ce blog, hébergé sur le Huffington Post, 20 billets rédigés depuis juin 2017, la plupart consacrés au président, est effectivement très élogieux. Le chef de l'État y est décrit comme un homme libre, un formidable homme politique, à l'indéniable volonté, celui qui a redonné du prestige à la fonction présidentielle. Plus intolérable encore, siffle l'opposition, ces mails de campagne retrouvés dans les Macron Leaks. L'équipe du candidat demande à Bertrand Delay une aide sur le programme culturel et des conseils pour les discours. Un avis demandé après coup, se justifiait alors le documentariste. Quant à son blog, c'est terminé. Dans une interview accordée à Télérama, il confie « Je m'efface désormais derrière la fonction ».
Élodie Forêt du service politique de France Inter.
Et on termine avec cette question, comment lutter contre les fake news ?
Eh bien, il y a la loi loi. Le texte sera soumis aux députés au mois de mai. Puis il y a la prévention. Le gouvernement veut renforcer l'éducation aux médias destinée aux 10-15 ans. Le magazine Okapi, par exemple, a lancé Zoom Zoom, une application smartphone dédiée au décryptage des images d'actualité. Sébastien Sabiron.
Donc l'image, elle est zoomée, on voit juste des sortes de filaments.
Une image zoomée et un quiz pour deviner ce qu'elle représente. Un court article explique ensuite d'où vient la photo, dans quel contexte elle a été prise. Camille, collégienne toulousaine, apprécie le concept.
L'appli, elle est pratique, en plus il n'y a pas de pub. C'est un moyen cool de se renseigner sur l'actualité, quoi.
Comme Camille, Emma s'informe avec son smartphone sur les réseaux sociaux, les sites d'actualité. La collégienne s'amuse aussi à débusquer les fake news.
Souvent sur Instagram, on va avoir des photos de gens avec des commentaires. Dans Paris, on a retrouvé des loups ou des choses comme ça. Et quand tu regardes bien la photo ou des sites internet, en fait, c'est jamais arrivé.
D'où l'importance pour Camille d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge.
Il y a de plus en plus d'images et de plus en plus d'informations. Donc c'est important de dire aux jeunes comment se protéger un peu de tout ça.
Avec l'appli Zoom Zoom, Okapi espère aiguiser le regard de ses jeunes lecteurs. Dans ses pages, le magazine les met aussi régulièrement en garde contre les fausses nouvelles. Le rédacteur en chef, François Blaise.
Alors effectivement, ils n'ont pas le background. Ils sont probablement un petit peu plus perméables que d'autres à des choses qui nous semblent évidentes. Par ailleurs, ils sont probablement beaucoup mieux informés que nous du fait qu'il peut y avoir absolument n'importe quoi sur le web. Je crois que nos ados sont probablement aujourd'hui un petit peu plus futés que nous sur certaines pratiques.
Le ministère de la Culture prévoit de doubler l'enveloppe consacrée à l'éducation aux médias de 3 à 6 millions d'euros.
Comment lutter contre les fake news? Une question au cœur des assises du journalisme qui se tiennent à Tours depuis hier. Opération dont Radio France est partenaire, Aline.
Merci Sébastien Legénie.